je pense pas que je veux devenir humoriste. Je pense que je suis déjà drôle.
En 2021, ça va être terminé. Après, je serai plus simple.
J'ai fait le dragon pour des raisons un peu personnelles.
C'est moi qui, maintenant, mets des choses dans le cœur de mes petits-enfants et dans leur mémoire.
T'sais, j'en écris, j'en raconte maintenant des histoires. Ça m'intéresse.
Tout le monde a le droit de stanner. Moi, je me tanne jamais.
Sans filtre. En compagnie de Marc Hervieux, chanteur, animateur, ténor et nouvellement cinquantenaire.
Oui, oui, depuis cet été. Et puis là, je suis rendu à 4 parties, fait que c'est pas pire. Tu sais, peut-être ça va durer toute l'année, je sais pas.
4 parties de 50 ans, explique-nous.
Non, mais c'est parce que j'ai eu un party le jour de ma fête, le 19 juin. Puis là, imagine, c'était entre nous, là, la famille, c'était vraiment le fun, un beau souper à la maison. Puis après ça, le 18 juillet, imagine, j'arrive chez nous, puis pour monter chez moi, j'habite à la campagne, en hauteur. Fait que je monte ce chemin-là. Puis rendu au bout, là, quand je tourne, c'est un virage vraiment très serré, c'est ma maison qui est là, tu sais, fait que... Alors, en tournant le coin, écoute, il y a 70 personnes dans la rue. Ils bloquent la rue. Et puis, tu sais, au lieu de... Tu rentres dans ta maison, puis là, tout le monde sort de partout, surprise. C'était direct dehors, dans la rue. C'était vraiment, vraiment le fun.
C'était qui? C'était les gens de Morning Lights ou c'était des amis?
C'est mes amis, surtout. C'est ma blonde qui avait organisé ça avec une de mes filles, la plus vieille, là, Yann. Puis, il avait travaillé fort pour inviter plein de monde. Puis, évidemment, ça s'est fini comme toujours. Chez nous, c'est tout ouvert. Tu sais, le rez-de-chaussée, il y a pas de mur ou presque. Et puis, il y a un piano à queue en plein milieu de tout ça. Et puis, ça se finit toujours alentour de ça. Fait que c'est ça qui est arrivé.
Fait que ça, c'est le deuxième party?
Ça, c'était le deuxième. Après ça, fait deux fois cet été que je vais souper chez des amis. On est invité à souper, on arrive. Tu sais, il y a du monde, des amis, mais on n'est pas un gros groupe. Ben là, tout à coup, il y a un gâteau, puis il y a un bon fête, puis il y a des cadeaux. Je dis, hey, c'est merveilleux!
Ben voyons donc, c'est bon ça!
C'est merveilleux! Fait que ça fait deux fois là, que ça m'arrive, là. Fait deux autres fois, là.
Ben, toujours là, dans la foulée du mois de juin?
Non, là, ça m'est arrivé récemment, au mois d'août, dernièrement. J'ai eu un beau gâteau de fête.
C'est des amis qui ont quelque chose à se faire pardonner.
Pas en tout, tellement pas. Au contraire, justement, ben, je peux le dire, le dernier, c'est chez Mme Wattier, Lise Wattier, qu'on se voit, on est presque voisins à la campagne, puis on se voit souvent. Puis là, elle dit, viens donc, je suis pas à la maison. On essaie de trouver une date. Puis là, finalement, on était là avec les enfants. Puis ça, c'est drôle parce que, tu vois, mes enfants, tu sais, à l'âge qu'elles ont maintenant, tu sais, quand tu dis, hey, on est invité à souper chez des amis, est-ce que vous venez, est-ce que vous venez pas? Majoritairement, ça va être, finalement, j'ai d'autres choses. Quand c'est chez Mme Wattier, c'est toujours oui.
Ah, c'est sûr.
Puis il n'y a pas de. C'est juste parce que elle est tellement, tellement fine, puis son mari, ils sont tellement, tellement fins, puis les enfants, ils sentent ça, hein, tu sais, quand ils peuvent parler, ils peuvent communiquer avec quelqu'un qui a définitivement pas leur âge, tu sais, puis qui peut être comme une figure de grands-parents, là, tu sais. Fait que moi, je trouve ça vraiment fascinant.
J'avais pas que t'es ami avec
En fait, j'ai collaboré quelques fois à sa fondation pour les soirées de sa fondation où j'animais puis j'en cantais les prix de ces soirées-là. En fait, au moment donné, elle avait eu cette idée-là de me demander d'en faire partie. On est allé dîner ensemble. Et pendant ce dîner-là, tout à coup, on découvre que, évidemment, à une période différente, mais on est né un coin de rue de différence dans Hochelaga-Maisonneuve.
Non.
Ouais. Et puis qu'on a eu à peu près la même vie dans Hochelaga-Maisonneuve avant qu'elle l'emparte.
Elle vient d'Hochelag, les Ouattiers. Mon Dieu, on a oublié ça.
Orléans, Adam. Ouais. Juste en face de l'église où j'ai été baptisé. Donc, tu sais, c'est vraiment, on avait les mêmes références, tu sais, on jasait. Puis là, c'était super drôle. T'sais. Puis évidemment, on a quand même quelques années qui nous séparent, mais ça a fait que ça c'est devenu vraiment instantané. Ouais.
Et là, je me souviens pour une série que j'animais, que je produisais d'hier à Montréal pour l'année
oui, on s'était promenés dans le Chagas ensemble.
Oui, on était retournés dans ce quartier-là où. Puis je me souviens que tu habitais quasiment à côté de chez La Poune.
Oui, non, ça c'était à la campagne qu'on habitait à côté de chez La Poune.
Ah, c'est à la campagne.
À la campagne, à la Norée où on allait l'été. Ça, mais dans Hochelaga Maisonneuve, moi je connais Hochelaga Maisonneuve comme le fond de ma poche, tu sais, je veux dire.
Mais je me souviens que tu m'avais parlé de La Poune.
Oui, parce que. Quand on était enfant, mon père, qui travaillait à l'usine de sucre dans Hochelaga-Maisonneuve, l'antique maintenant, mais c'était Sucre Saint-Laurent dans le temps. Il ramassait un peu d'argent, puis il louait un chalet pour l'été. Puis tu sais, c'était un petit chalet, là, vraiment d'été, là. C'est un beau souvenir, ça, ces étés-là au chalet.
Puis la poune était
puis la poune était notre voisine, Madame Ouellette. Et puis, elle venait souvent demander à mes parents pour l'aider pour ses fleurs, ses arbres, tout ça, parce que elle avait plein d'arbres, plein de fleurs.
Mais elle vient pas de Schlag aussi?
Je le sais pas, ça. Hein? Je le sais pas.
En tout cas, elle a joué beaucoup, poune... parce que les théâtres de variété, les théâtres.
Oui, nous autres, bon. À un moment donné, elle a voulu vendre ce chalet-là, cette maison-là, puis elle a dit à mon père, c'est vous qui allez acheter ça. Mon père, il dit, Madame Ouellette, j'ai pas une scène, je travaille à l'usine, j'ai pas de métier, on a de la misère à arriver. Elle dit, Monsieur Hervieux, ça fait 15 ans que vous en occupez, 20 ans, c'est vous qui allez acheter ça. Il dit, j'ai pas les moyens, Madame Ouellette. Elle dit, c'est pas grave, je vais vous prêter l'argent, moi, pour acheter ça. Ben, il dit, ça n'a pas d'allure, tu sais. Mais même ça, je sais pas comment je vais faire pour. Elle dit, c'est pas grave. Et fait que ça s'est fait, tu sais.
Ah!
Puis, elle avait dit à mon père une seule condition, c'est que dans le garage,
c'est
je vais laisser...
C'est que Marc Hervieux devienne chanteur.
Non, mais moi, c'était mon ami. Hein. Elle venait me chercher pour aller à la pêche. On allait à la pêche ensemble.
T'es allé à la pêche avec la poule.
Oui, oui. Après, l'été, là, elle venait cogner chez nous. Ouais, Marco, es-tu là? Et puis là, je partais avec elle. Puis on allait en chaloupe sur le fleuve. Puis on pêchait, tu sais.
Faut-il faire une aparté ici, Marc Hervieux, pour expliquer aux milléniaux qui nous écoutent
oui,
qui
ben,
est
quand
la
même,
poule?
Quand même. Ben, une des grandes comédiennes du burlesque de l'histoire du Québec,
ah,
tu sais,
ouais.
qui a créé, dans le fond, avec bien d'autres, tu sais, le théâtre, la comédie, les tournées à travers le Québec, le théâtre national. D'ailleurs,
ouais.
Tu vois, c'était une des conditions. Elle avait demandé à mon père, j'ai pas d'endroit pour mettre les grosses malles de costumes puis toutes les affaires que j'ai pour l'instant, mais quand je vais trouver, je les enlèverai. Mais en attendant, est-ce que je peux laisser ça dans le garage?
Du chalet.
Fait que nous autres, on allait fouiller dans les costumes du Théâtre national puis de toutes ces affaires-là, parce que c'était là, dans notre garage, pendant qu'elle allait trouver une place pour entreposer ça.
Fait que dans
ça.
Le fond, puis ton père, est-ce qu'il a pu la rembourser ou finalement, s'en foutait?
J'étais trop petit, tu sais, pour savoir ça. Puis moi, mon père est décédé, ça fait tellement longtemps.
Ouais.
Là,
avez-vous encore le chalet de la poune
dans
la famille?
Maman l'a vendu il n'y a pas si longtemps, tu sais.
Non.
Ouais, elle l'a gardé très longtemps. Je sais pas comment ça s'est réglé, cette affaire-là, entre la poune et mon père, s'il l'a remboursé ou non. Mais elle disait, non, il n'y a pas personne d'autre qui va avoir ça, M. Hervieux, c'est vous qui allez avoir ça.
C'est drôle. Merveilleux.
Ouais, c'est très
c'est
drôle, cette histoire.
C'est vraiment drôle.
Ouais.
Et c'était où, déjà?
À Lanoraie. Donc, tellement proche de Montréal. Tu sais, tu sors vers l'Est. Vous parliez de l'Est beaucoup. Quand j'étais enfant, puis qu'on passait par la rue Notre-Dame pour s'en aller à Lanoraie, c'était des champs, hein, aussi.
Ouais, c'est ça, faut dire ça aussi.
Ouais. C'est qu'il y a eu beaucoup d'étalements, puis de
Et ça s'est fait vite.
Ça s'est fait très vite. Ouais. Mais il faut aussi dire, parce que je l'ai écouté, ton émission tantôt, dans
Comme
mon
si
char,
vrai.
Pris dans le trafic.
Ben ouais.
Il faut, moi, je pense que les dirigeants, en général, là, ils doivent l'avouer quand il y a un problème.
Mais oui, je
Parce
sais pas.
Parce que l'espèce
Monsieur
de faux,
qui était ben
faux
fin.
Positivisme...
Oui,
c'est super... Écoute, il avait une belle attitude, il restait calme, zen, tout.
Mais ça fâche, ça te met de mauvaise humeur.
Ouais,
parce que t'as l'impression...
On l'a,
l'autre te niaise quand il dit « c'est une priorité ». Mais voyons, une priorité.
Ouais.
Je suis sûr que tu chantais de
Puis de la volonté colère dans ton auto. Là, de la volonté politique, il y en a depuis combien d'années pour l'autoroute de Bonaventure qu'elle allait s'appeler.
Ouais.
Nous autres, là, quand j'étais enfant, on habitait à 543 Bourbonnière. On a fait partie donc des expulsés de ces maisons-là qu'on a démolies pour faire l'autoroute. Mais là, je te parle des années, début des années 70.
Ouais.
Alors, tu sais, c'était de la volonté politique, ça.
Ouais.
Tu sais, c'est pareil. Donc, à un moment donné, la volonté politique, bien sûr qu'elle est là, mais ça prend de l'action politique.
Effectivement. On a un extrait de la poune.
Hein?
Ouais, mets tes écouteurs.
Mets du sel, mets du poivre et puis du sel avec un peu de sauce. Ce jour-là, l'amour m'a pris. Avec un peu de sauce, j'ai connu des mots gentils. Mets du sel, mets du poivre et puis du sel avec un peu de sauce.
Je pense que la dernière affaire, que les gens peuvent se rappeler, jusqu'à quel âge, je sais pas, là, c'est quand elle avait fait les publicités, là, la rose est douce.
Wow.
Ça, je sais pas si c'était en quelle année.
Hey, on l'a, regarde, encore un petit peu, Seb.
La rousse
Non, mais c'est une institution.
Ouais, avec son petit chapeau.
Faut s'en souvenir, les jeunes.
Petit chapeau qu'elle portait aussi tous les jours dans la vie.
Arrête, au chalet.
Ouais, ouais, au chalet, elle avait toujours son petit chapeau. Ouais, ouais, elle a toujours son petit chapeau de matelot.
C'est fou. Bon, tu vois, c'est ça l'entrevue sans filtre, les amis. On a appris un gros pan de la vie de Marc Hervieux qu'on n'imaginait même pas, dans
le fond. C'est peut-être à cause d'elle, dans le fond, que je fais ce que je fais aujourd'hui.
Peut-être. On va voir. On va peut-être creuser ça au retour de pause. On est en compagnie de Marc Hervieux. On revient tout de suite après.
Ben là, c'était drôle parce qu'on était réellement dans un studio d'enregistrement. Je venais d'enregistrer tout un disque. Puis je m'étais dit, je vais demander aux gens s'ils veulent venir assister à ça. Puis c'est bien plus le fun pour le chanteur, tu sais, t'as du monde devant toi. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais à la fin, j'ai décidé de rajouter au solo mio puis de faire chanter le monde. Puis on l'a mis aussi sur le disque, tu sais.
Mais c'est magnifique.
Ça fait du bien. On a besoin de ça maintenant, de plus en plus, je pense. C'est ça qu'on disait tantôt, on parlait de trafic, mais toute la nouvelle réalité de notre vie, ça fait qu'on a besoin des petits moments de bonheur, puis du bonheur facile aussi.
Mais toi, je sais pas, peut-être je me trompe, on se connaît un peu, j'ai l'impression que tu es plutôt de bonne constitution.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que, tu sais, il y a des gens, ils voient toujours le verre à moitié vide.
Ah, moi, il est plein.
C'est ça.
Ouais.
T'as toujours été comme ça?
Oui, j'ai toujours été comme ça. Mais je me rends compte que plus je vieillis, plus je me rends compte, je regarde alentour de moi, je regarde les gens que je connais, j'observe des gens que je connais pas nécessairement, des fois. Puis je me rends compte que, tu sais, ça vient avec un bagage génétique qu'on a chacun. Puis, il y en a pour qui c'est plus facile, ça. Puis, il y en a pour qui c'est plus difficile.
Après, tu as les moyens aussi.
Oui,
les
bien
gens
sûr.
T'as quand même, c'est plus facile quand tu as les moyens financiers.
Oui. Puis plein de moyens.
Mais t'es né, on le disait tout à l'heure, t'es né dans un quartier défavorisé. Ton papa, était ouvrier. Donc, t'as pas toujours connu ça.
Non, parce que la différence, c'était qu'on vivait dans un milieu où c'était... C'était un challenge d'arriver à la fin du mois, là, monétairement, puis de boucler le budget. Mais mes parents rivalisaient d'astuces pour économiser sur ci, sur ça. Et comme dans la maison, il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de dépendance à l'alcool, la drogue ou des pilules ou quoi que ce soit. Tu sais, nous autres, ça se faisait dans le bonheur, tu sais, c'était pas là, on sautait pas tout le monde, la famille Slow-Mo, là, tu sais, on était heureux, tout ça. Mais c'était juste normal. Tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on sentait, on sentait que c'était la normalité. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Fait qu'on ne le savait pas qu'ailleurs, il y avait quelque chose de vraiment, vraiment plus hot des fois. Nous autres, on ne le voyait pas, ça. Tout ce qu'on voyait, c'était notre milieu. C'est aussi niaiseux que quand j'étais enfant, je réalisais pas qu'on parlait autant de langues à travers le monde parce qu'on vivait dans un milieu quand même assez fermé, dans Hochelaga-Maisonneuve. C'était comme un village.
Quand est-ce que tu as commencé, Marc, à te rendre compte qu'il y avait autre chose que ton petit quartier d'Hochelag puis ta famille?
À un moment donné, je faisais partie des scouts. J'ai adoré ça, moi, faire partie des scouts quand j'étais enfant. Puis on faisait des camps. Et à un moment donné, donc, je fais un camp. C'était, je pense, à Saint-Roch-de-Miquinac. Et c'est un jamboree mondial. Mmh. Donc, il y a des scouts de plein de pays à travers le monde qui étaient là. Écoute, on était des milliers et des milliers. Et puis, on animait des feux de camp. On avait des soirées. Puis moi, écoute, je prenais vraiment beaucoup de place. T'sais, j'étais hyper actif.
Est-ce que tu chantais déjà?
Ben oui, j'animais. Puis moi, écoute, à travers ces feux de camp-là, peux-tu croire que je chantais des extraits d'opérettes puis que j'imitais, tu sais, parce que j'avais entendu ça à télé, à radio, puis ça me fascinait, puis j'avais appris ça par cœur. Je leur chantais ça, puis je les faisais chanter avec moi. c'était quand même fou, tu sais, quand tu y penses, un peu prémonitoire aussi. Mais c'est là que j'ai découvert ça.
Parce que t'avais quoi? T'avais quel âge?
Ça doit être à peu près 12 ans, là, 10-12 ans.
Fait que t'étais louveteau?
J'étais louveteau, puis après ça, éclaireur, puis après ça, pionnier.
Ouais. J'étais Jeannette.
Ah, je savais qu'on avait quelque chose en commun.
Ben, c'est sûr, il y a plus que ça en commun. Mais c'est drôle. Donc, à 12 ans, tu savais déjà que tu aimais chanter.
Ah oui, même avant ça, bien avant ça.
Je pense que tu avais ton petit radio aussi. Oui, T'écoutais beaucoup la radio.
Hey, écoute, j'anime des émissions de radio maintenant. Sur ici, ailleurs, musique classique, ouais. Et puis je faisais ça dans ma chambre. Ouais. J'avais un caliphone là, un tourne-disque, puis j'avais un petit enregistreuse. Et puis là, je mettais le disque, mais tout ce temps-là, la cassette. Encore une fois, il va falloir expliquer
Là,
je faisais un record, puis là, je mettais le disque et je présentais. Puis là, j'essayais de faire comme j'entendais à la radio. Okay. Tu sais, ok, ben la prochaine chanson d'un interprète. Bon, là, je sais pas, là, qu'est-ce que je mettais. Et, attends, je vais te faire un autre détail. Quand j'avais pas la chanson, quand j'avais pas le disque, parce que je n'avais pas beaucoup des disques, ben là, c'était moi qui la chantais. Je présentais le chanteur, puis la toune qu'il avait faite, mais c'était moi qui la chantais, parce que je n'avais pas le disque. Et je me faisais des cassettes.
Tu sais qu'aujourd'hui, ça s'appellerait un podcast?
Oui, c'est ça!
Hey, je suis sûre que si tu faisais ça aujourd'hui, ça marcherait.
Mais quel regret!
Moi, j'écouterais ça, moi.
Quel regret de ne pas avoir ces cassettes-là.
Ah, ben oui.
Où c'est que ça pourrait être, ces cassettes-là?
Va fouiller dans le chalet de la poule.
Oui, c'est ça. Imagine si on pouvait écouter ça, ça n'aurait pas de bon sens.
Écoute, moi, j'ai fait la même affaire. Je pense que c'est drôle parce que je lisais un truc dernièrement, une étude comme quoi les artistes, les chanteurs, les acteurs, les auteurs faisaient ça quand ils étaient petits.
Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est
comme toi,
c'est
tu dis, je chantais naturellement, ouais. J'animais des émissions de radio. Tu sais, par exemple, des réalisateurs très connus qui racontaient qu'ils faisaient déjà du montage quand ils étaient plus jeunes. Fait qu'il y a quelque chose dans l'enfance qu'on a envie de poursuivre. T'sais?
As-tu déjà vu sur Internet, sur Facebook, Yannick Nézet-Séguin qui dirige quand il a 5-6 ans?
Tu vois?
C'est une vidéo de famille. Là, il écoute, il dirige. Là, il l'a, tabarouette. T'sais.
C'est drôle.
C'est ça. Ouais. Je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose en nous.
Mais t'es pas allé étudier là-dedans?
Pas au départ, parce que mon père, il disait, c'est un hobby. Mon père, il disait, tu vas pas gagner ta vie avec ça, tu vas te retrouver comme moi à l'usine. Fait que fais pas ça, trouve-toi un métier. Je suis allé étudier en graphisme, tu vois, à cause de mon père. Mais j'aimais ça, là, ceci dit, le graphisme. Puis je me suis donné la permission d'aller étudier en musique parce que il était décédé. C'est une drôle d'affaire. Hein?
Quel plaisir de t'avoir reçu, Marc Hervieux. Merci beaucoup. On va bien sûr pour les spectacles de Marc sur sa page marchhervieux.com. Vous aurez plein d'infos. Il va être au Festival Western de Saint-Tite, bien sûr, dans quelques jours. Ensuite, à Victo. Bref, tout le mois de septembre.
Puis à partir de janvier au TNM, dans Néligan.
Ben, tu auras le temps de revenir.
Ah, mais je vais revenir.
Bye tout le monde!